Voilà, je résume. On vous a appelé un Proust au féminin et constaté que la lecture de vos livres choque puisqu'il y a peu d'écrivaines qui s'expriment aussi honnêtement et qui reflètent leur propre vie sans aucune fioriture. Suivent quelques mots de Joachim sur la parution du livre « Une femme » et s'enchaîne la première question qui est « Comment est-il pour vous aujourd'hui ?» de vous souvenir de votre mère qui est morte en 86 et plus que 30 ans après avoir écrit Une femme.
Ce qui est tout à fait frappant pour moi, c'est de voir comment, au fond, ma mère est passée dans, non pas la littérature, dirais-je, ce qui est, serait trop justement fioriture, mais plutôt à travers la vie des lecteurs. C'est-à-dire que ce livre qui, a été, qui est sorti il y a donc 30 ans et qui a été lu déjà par des lecteurs, a forme une sorte de communauté de lecture et ma mère existe à travers ces lectures qui ont été faites. Alors le livre lui-même maintenant est évidemment assez détaché de moi, ce qui est tout à fait normal puisqu'il est il est devenu quelque chose comme un peu spirituel, passer dans les âmes, les pensées, peut-être des autres gens. Donc j'ai à la fois une distance et si je n'avais pas ce livre, peut-être que j'aurais eu le sentiment que j'avais enterré vraiment ma mère, ce qui n'est pas le cas.
Dans la première partie du livre « Une femme », vous notez que c'est en écrivant que vous mettez au monde votre mère. Et en quelque sorte, elle a toujours eu une très forte présence, puisque vous dites qu'elle est la femme qui importe plus pour vous. Comment décrire le caractère particulier, comment résumer l'existence de la mère ?
C'est certainement en perdant ma mère... Brutalement, elle est morte subitement au cours de sa maladie d'Alzheimer, mais on ne meurt pas de la maladie d'Alzheimer. Elle a eu un arrêt cardiaque et c'est à ce moment-là que quelque chose s'est effondré autour de moi. Je n'aurais jamais imaginé, comme beaucoup de filles, que celle qui a été là dans votre vie, que ce soit d'une manière quelquefois, en ce qui me concerne, très violente, mais très prenante, puisse disparaître. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé, c'est la femme de ma vie, en quelque sorte, oui. Et j'ai eu le sentiment que ce que j'étais devenue à 45 ans, j'avais cet âge-là, c'était en grande partie à la fois à cause d'elle, contre elle, c'était à ce titre-là, elle était la femme la plus importante.
Dans votre livre « Une femme », vous parlez de la quête de vérité et qu'elle puisse seulement se faire voir et se découvrir par l'écriture ou dans l'écriture. Quelle vérité avez-vous pu relever ?
Alors, il est certain que ça ne peut être en écrivant qu'une recherche de la vérité. La vérité, c'était sur, au fond, avait été la vie de ma mère et quelle avait été la vérité aussi de nos rapports en l'une l'autre. Et donc, je m'engage dans cette quête-là, mais au bout, comme dans tout livre que j'entreprends, je ne sais pas quelle est la vérité que j'ai trouvée, en fait. Et que ce n'est pas c'est ce qui compte, ce n'est pas d'arriver à une, quelque chose de définitif. Je n'arrive pas à la fin à cette sorte de lumière qui est, à mon avis, n'est pas de ce monde, ni dans un autre d'ailleurs. Mais ce qui compte, c'est la recherche. C'est la recherche de l'écriture, dans l'écriture, par l'écriture. Et cette recherche, elle était pour moi par l'écriture seulement. Ce n'est pas possible de penser qu'il pouvait y avoir un autre moyen de parler d'elle. La mémoire, elle seule, ne suffit pas. Donc, c'est un acte, c'est vraiment l'acte de... Je dirais de résurrection. Voilà, c'est une résurrection qu'on tente. Et bien sûr, c'est en essayant de vraiment de ressusciter la femme, c'est de se dire que c'est autre chose aussi qu'on fait. Et ce que je faisais, c'était de parler d'une femme qui a été une ouvrière, qui a été une commerçante qui n'avait pas la culture, qui ne possédait pas la culture, mais qui avait un désir de savoir et qui a voulu réaliser son désir de savoir, et même on peut dire son désir d'ascension sociale aussi, à travers moi. Et qui, c'est une femme aussi qui est d'une autre époque, et ça se marque parce qu'elle a une peur et une peur effroyable du sexe, des relations sexuelles, parce que c'est dans son expérience, la fille qui est trop légère et qui couche avec les garçons, elle est perdue, elle doit se marier, elle a des enfants, parce que la contraception n'existe pas, il faut aussi remettre tout ça dedans. Donc c'est en même temps, c'est à travers cette femme qui est la mère, c'est de déployer une époque, c'est de déployer une condition sociale, c'est de faire passer quelque chose même d'inconnu, que je ne sais pas, et qui est certainement... ma colère à moi aussi, ma colère vis-à-vis de ce que les choses sont ainsi, inégales, qu'il y a eu à la même époque. Je parle par exemple de ma belle-mère, de la femme, de la mère de mon mari, qui elle est aux antipodes, n'a pas connu les difficultés de la vie et qui a aussi cette condescendance vis-à-vis de ma mère. Voilà. Donc c'est alimenté aussi par cette colère.
Vous avez comparé votre travail à celui d'un ethnologue, à la recherche de soi-même, en quête de soi-même. Quelle place prend le livre Une femme dans l'ensemble de vos explorations ethnologiques?
Il participe de cette même démarche d'objectiver, c'est-à-dire de mettre à distance la femme qu'était ma mère, et essayer de ne pas la considérer comme justement seulement ma mère. C'est cette mise à distance qui ne peut se faire que peut-être lorsque la mort est passée. Voilà. Mais je me mets moi aussi à distance, c'est d'être également dans une position de distance ethnologique par rapport aussi à moi-même, c'est-à-dire de me considérer comme la fille au fond indigne qui va rejeter sa mère comme étant un peu vulgaire, n'ayant pas la discrétion bourgeoise qu'à l'adolescence elle souhaite. Voilà, donc je me mets moi-même aussi à distance. Donc, mais il est vrai que certainement, dans ce livre, je n'ai pas pu faire autrement que d'être malgré tout envahie par énormément de sentiments, d'émotions. Qui transparaissent sans doute beaucoup plus peut-être que dans mon livre sur mon père, La Place. Et peut-être aussi parce que j'écris là, sous le coup vraiment de la disparition.
La Place, livre similaire à une femme, s'ouvre par une citation de Jean Genet. Il dit « Écrire, c'est le dernier recours quand on a trahi. Avec quelle trahison avons-nous à faire ?»
Vis-à-vis de mon père, il est évident qu'il y a pour moi une trahison de classe. C'est-à-dire, j'ai eu vraiment le sentiment qu'en devenant intellectuelle, en devenant professeur, même si maintenant ce n'est pas un métier extrêmement considéré en France, mais c'était davantage peut-être dans les années passées, mais en changeant de goût, en changeant de manière, en adoptant les codes de la société dominante, de la classe dominante, du même coup, je trahissais, c'est-à-dire je m'enfuyais de son monde à lui et que je lui infligeais une souffrance inconsciente de ma part, mais une souffrance réelle. Et il est vrai qu'avec ma mère, je n'ai pas eu tout à fait le même sentiment.
Si on se met à lire La Place et une femme, un livre après l'autre, il se tissue une sorte de sociologie du milieu, de l'origine ou de la provenance de la vie d'une certaine classe en France. Didier Héribon et Édouard Louis se réfèrent explicitement à votre œuvre. Édouard Louis est encore très jeune, une cinquantaine d'années, plus jeune que vous. Est-ce que cette attention portée à vos textes vous plaît-il ?
Oui, il est... Pour moi, c'est un hommage, bien sûr, à mon travail. Et je suis absolument heureuse qu'il y ait une poursuite et un approfondissement, peut-être aussi, de ce que j'ai ouvert dans les années 80. Et d'autant plus que ce sont des questions qui restent entières, qui sont celles des différences sociales, du passage d'une classe à une autre, transfuge de classe, et tout simplement de la condition qui est faite aux ouvriers, aux classes, aux classes moyennes qui ne disposent pas de moyens économiques, de relations et qui ne peuvent pas, au fond, aspirer à autre chose que ce qui a conduit la vie de leurs parents. Voilà. Et donc, cette poursuite et cette mise en œuvre d'une littérature et qui est une littérature politique, dirais-je, c'est extrêmement important à mes yeux.
En Allemagne, on apprécie également, comme en France, votre style, ce regard radical que vous jetez sur vous-même et votre propre biographie. Qu'est-ce qui vous a décidé d'écrire ainsi, d'être honnête avec soi-même et de rendre public ce regard impitoyable?
Je crois qu'au départ, il y a de toute façon, il y a le désir d'écrire. Écrire sans écrire intransitif, voilà, écrire, qui m'est venu vers 20 ans. Et au fond, je veux écrire, mais j'ai trop à dire, j'ai trop à dire. Et donc, j'écris un texte qui ne sera pas publié, que j'envoie à une maison d'édition. Mais ensuite, il se passe 10 ans. 10 ans où j'ai envie d'écrire, mais je n'écris pas, et où il se passe dans ma vie un certain nombre d'expériences fortes, qui construisent un autre être que la fille que j'ai été, et qui va me pousser à approfondir quelque chose qui est là depuis très très longtemps, et qui est que en fait je n'appartiens pas à la classe dominante, mais j'ai fait des études et je pourrais, comme on dit, donner le change et apparaître au fond comme si j'étais de la bourgeoisie, pour aller vite, voilà. Et au fond, il y a ce passé en moi, il y a quelque chose d'énorme qui est, je veux dire, c'est toute l'enfance et toute l'adolescence dans un autre monde. En réalité, j'ai refoulé, c'est le refoulé social, c'est le terme qu'il faut employer, c'est le refoulé social. Et il survient, il y a deux choses. Il survient à la mort de mon père, et je ne peux pas le formuler vraiment. Et ensuite, je lis un livre de Pierre Bourdieu, le sociologue français, qui a écrit un livre sur ce qu'il appelle les héritiers, et ceux qui sont nés dans la bourgeoisie et qui vont avoir une voie toute tracée, devenir justement médecin, professeur, avocat, bien. Et je lis cela et met en regard ce qu'il appelle les étudiants boursiers, c'est-à-dire à qui l'État donne de l'argent, mais qui n'aurait pas dû être là, qui sont au fond des exceptions. Et je suis une, voilà, c'est ça, je suis cette exception-là. Et ça porte un nom, je suis une transfuge de classe, mais ce nom-là, on ne l'utilise pas encore en France quand j'écris. Et je comprends tout de suite, et je comprends, et je me dis qu'il faut que j'écrive. C'est ça, j'ai l'incitation à écrire. C'est comme si c'était le mandat que j'ai reçu, le mandat d'écrire là-dessus, parce que, il faut bien le dire, j'ai le sentiment que ça n'a pas été écrit. Voilà.
Vous n'épargnez rien dans vos livres, que ce soit les viols et les conséquences sociales, que ce soit un avortement secret. Cette franchise brutale a tout de même encouragé un nombre de femmes à se confronter avec leur sexualité, à faire face aux tabous de l'époque. Votre œuvre littéraire a souvent été qualifiée d'être une force motrice pour l'émancipation féminine. Le voyez-vous ainsi?
Je crois que je pense que j'ai eu toujours à cœur, mais très jeune, de m'affirmer moi, et de m'apercevoir en même temps que pour une femme, c'était très difficile si elle n'avait pas reçu justement les codes de la bonne féminité. Et dans le milieu populaire dans lequel j'ai vécu, il y avait beaucoup plus de liberté des femmes et de violence des femmes. C'était très souvent, l'homme était considéré par les femmes comme une calamité. les hommes travaillaient, certes, mais les femmes aussi travaillaient dans mon milieu. Elle travaillait à la, campagne, elle travaillait en usine, elle travaillait dans des commerces. J'ai toujours vu ma mère travailler. Et moi, je n'ai pas non plus reçu les codes de la fille convenable qui doit savoir cuisiner, qui doit savoir coudre, et tout cela. Ma mère avait balayé cela en disant que c'était moins important que d'apprendre à l'école. Donc, j'ai été en décalage avec les codes habituels qui régissaient l'existence des filles. Et c'est cela qui, au fond, m'a poussée au moment où j'ai vraiment voulu écrire, donc ça a été d'être dans cette vérité-là, dans la vérité du corps, dans la vérité des désirs des femmes, et aussi de m'insurger contre ce qui était la charge mentale, ce qu'on appelle maintenant la charge mentale, mais qui était au fond de porter toute l'organisation de la maison, des enfants, dans sa tête. La tête des femmes comme un ordinateur continuel, alors que les hommes avaient une existence, ont toujours d'ailleurs une existence dirigée vers un but du travail et laisse l'intendance aux femmes. Mais ce que je vous dis là, je l'ai écrit il y a maintenant 40 ans dans un livre qui n'est pas traduit, mais qui s'appelle « La femme gelée ». Et donc, il est bien sûr que je n'allais pas, en continuant d'écrire, brusquement cesser d'être cette femme-là, avec cette exigence d'être soi une exigence tout de même, il faut dire les choses, d'égalité. D'égalité et de refus d'une domination masculine qui me paraissait régir très vivement toute la condition des femmes.
Écrire sur la vie intime, sur sa vie intime, est-ce toujours aussi un acte politique ?
Pas forcément. On peut écrire sur soi d'une manière qui est tellement auto-centrée et qui ne fait pas du tout la part du conditionnement social. Ce n'est pas une écriture intime n'est pas, à mon sens, toujours politique et toujours fer de lance de quelque chose. Je pense que c'est toujours, en revanche, le choix que l'on fait des mots, le choix de la forme, même pour une écriture intime, qui compte. On parle beaucoup donc de la forme du roman, des personnages, comment l'écriture est telle ou telle. Et lorsqu'on parle des écrits dits intimes, on a tendance à les araser, à faire comme s'il n'y avait qu'une sorte d'écriture. Or, c'est pas du tout le cas. Et il y a des écrits intimes qui sont justement politiques et qui mettent en cause la société, et d'autres qui la confortent, qui sont un consentement à ce qui est.
La culpabilité et la honte sont deux complexes que vous avez percés et auxquels vous avez réfléchi maintes fois. Le débat MeToo a produit une poussée nouvelle. De jeunes femmes s'expriment, elles ne veulent rien entendre parler de culpabilité et de honte. Elles ont assez de l'arrogance masculine et poussent les feux. Quel est votre avis, votre position vis-à-vis ce mouvement, vous qui avez accompagné et témoigné ce processus d'émancipation depuis un demi-siècle?
Écoutez, c'était vraiment une très bonne nouvelle que l'émergence de la fulgurance de ce mouvement MeToo, auquel je dois avouer que je ne croyais plus. Je pensais qu'il y avait eu un repli du féminisme pour diverses raisons, il y avait donc une florescence de films, de publicités qui à nouveau mettaient le corps de la femme, je veux dire en évidence, à la merci, et les femmes n'étaient pas non plus très virulentes dans les années 90. Donc c'est à ce moment-là lorsque grâce maintenant par contre aux réseaux sociaux, à Internet, était un mouvement international presque, du moins occidental à fond. C'est le slogan me plaisait beaucoup. C'est « La honte change de camp ». C'est un retournement de ne plus accepter, de ne plus consentir. Mais est-ce que l'on se rend compte que ce sont des millénaires à soulever? C'est quelque chose d'énorme parce que même si la femme a des pouvoirs qu'elle n'avait pas il y a même 100 ans, c'est-à-dire celui de la reproduction, qui est un pouvoir énorme, bien sûr, et dont elle ne disposait pas, mais pas plus que les hommes, sauf que les hommes n'étaient pas concernés. Et donc, elle, d'un seul coup, voit qu'elles peuvent avoir, elles peuvent soulever aussi ce qui pèse sur elles et qui est cette domination diffuse qui fait qu'elles sont démunies lorsque, dans le tête-à-tête, parce que c'est ça qu'il s'agit, dans le tête-à-tête avec un homme, ou bien au sein de la famille, mais ça c'est autre chose, c'est le féminicide, mais dans l'acte sexuel, dans le tête-à-tête avec un homme, eh bien, pourquoi elle se sentait d'un seul coup obligée, celle qui devait se taire, qui devait accepter, et qui ensuite éprouvait la honte. Et cela, c'est ce qui était complètement fou quand on y pense. D'un seul coup, on ne peut plus revenir en arrière. On s'en aperçoit. Et on voit à quoi on a été condamné d'une certaine manière. Et c'est ça qui fait que je pense qu'il n'est pas possible de revenir en arrière. Merci.
Annie Arnaud war bei uns zu Gast. Ihr Buch »Eine Frau« ist in der Bibliothek Surkamp erschienen, neu übersetzt von Sonja Fink. Unser Gespräch mit Annie Arnaud hat Sigrid Brinkmann übertragen. Auch ihr besten Dank.